Grand Angle.
Vous êtes bien sûr Radio Orient, c'est le grand angle de ce jour. Donald Trump a annoncé une prolongation de 3 semaines du cessez-le-feu au Liban. Cessez-le-feu en vigueur depuis le 17 avril. C'était après une réunion à Washington avec les ambassadeurs libanais et israéliens. Cela dans ce contexte de guerre au Moyen-Orient entre l'Iran et Israël et les États-Unis. Notre invité Jean-Paul Chagnolo, président de l'IREMO, professeur émérite des universités, directeur de la revue Confluence Méditerranée. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Tout simplement, quelle est la valeur de ce cessez-le-feu? Le Hezbollah a rejeté ses pourparlers. Un cessez-le-feu qui a été maintes fois violé depuis sa mise en vigueur.
Écoutez, je crois qu'il y a plusieurs niveaux, effectivement, dans cette affaire. D'abord, le premier qui me paraît important, c'est que c'est tout de même pour les Libanais, les Beyrouthins et bien d'autres, très important, parce qu'ils viennent de subir et de vivre une période vraiment très très difficile. Il faut se souvenir des bombardements qui ont conduit à 357 morts et près de 2000 morts. C'était le 8 avril et même les Libanais qui sont malgré eux habitués à la souffrance et à la guerre, ils ont connu la guerre civile. Et bien même là, ils ont été vraiment épuisés. C'était vraiment d'une violence qu'ils avaient rarement connue.
Donc avec des centaines de morts en 10 minutes, hein, ce fameux mercredi noir.
C'est ça, 357 morts et en quelques minutes. Donc moi j'étais au téléphone avec certains amis libanais et ils n'avaient jamais connu quelque chose d'aussi terrible, quoi. Donc la première réaction, c'est important qu'il y ait cet apaisement. C'est pas la paix, loin s'en faut, mais au moins c'est l'apaisement et ils peuvent souffler un peu, respirer un peu. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, ce cessez-le-feu dépend très largement de ce qui se passe en Iran, parce que je crois que les choses sont liées. Donc tant que la situation semble se stabiliser ou stagner comme on voudra en Iran, eh bien on peut espérer que ça va continuer avec un cessez-le-feu au Liban. Il y a des négociations en cours en Iran, même si elles ne sont pas officielles. Il y a des tractations et des discussions en tout cas, donc ça c'est important, sinon évidemment ça rejaillirait très probablement sur le Liban. Bon, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que évidemment tout ça est précaire. C'est précaire parce que le Hezbollah est prêt à repartir et l'armée israélienne aussi. Et puis surtout, ce qui me paraît un élément nouveau et décisif presque, c'est le fait que les Israéliens, l'armée israélienne, a choisi de s'installer dans le sud au nom d'une zone de sécurité qui n'a de sécurité que pour les uns, mais pas pour les autres. Sécurité peut-être pour les Israéliens, mais insécurité totale pour les Libanais, puisque on se contente pas d'occuper toute une zone de 3 à 8 kilomètres le long de la frontière israélo-libanaise, mais on détruit systématiquement les villes et les villages. C'est-à-dire que les gens de ces villages, à Nakoura, à Benjbel, à Riam, eh bien, tout ne pourront pas revenir avant très longtemps, non pas parce que simplement on les empêche de revenir, mais parce qu'il n'y a plus rien. Des maisons sont détruites. Alors évidemment, ils pourront un jour les reconstruire, mais pour l'instant, ils n'ont même plus accès. Donc c'est une politique de la terre brûlée. Et donc, quand on démarre un cessez-le-feu et qu'on envisage des discussions qui plus tard deviendront des négociations en faisant ce genre de fait accompli, on peut penser évidemment que tout ceci est fragile, en tout cas très difficile.
Et justement, cette fameuse ligne jaune que vous évoquiez, l'intégrité territoriale du Liban qui est ainsi violée via cette nouvelle ligne de démarcation, cela ne peut pas durer indéfiniment.
Bien sûr, c'est une violation de l'intégrité territoriale et donc évidemment c'est totalement contraire au droit international. Ce qui est inquiétant, c'est que les Israéliens disent « on va y rester ». Ils disent ça, et une fois encore, pas simplement sur une forme d'occupation comme ça a été, ce qui était déjà énorme, comme ça a été le cas entre 1982 et 2000, car cette zone a déjà été occupée par l'armée israélienne, enfin dans des conditions multiples, avec des affidés libanais. Enfin, mais là, on veut détruire toute la zone, et donc ça, c'est évidemment quelque chose que les autorités libanaises ne peuvent en aucun cas accepter. Donc ça sera vraiment un des points fondamentaux. D'ailleurs, à la limite, comment est-ce qu'on peut négocier sans avoir demandé d'abord que tout ceci s'arrête? Et c'est ce que fait le gouvernement libanais. Ils disent arrêter ces destructions, mais pour l'instant, d'après mes informations, ça continue et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc ça, c'est un point très important. D'autant plus que si on regarde la carte, on voit que cette zone, elle va, en fait, elle rejoint, en suivant la frontière israélienne, elle rejoint le Golan, c'est-à-dire la frontière syrienne cette fois-ci, mais dans une zone syrienne qui est occupée par l'armée israélienne et annexée par l'État israélien. C'est la partie du Golan annexée depuis 1981. Donc on voit bien le sens stratégique de tout ça.
Avec des soldats de la FINUL qui sont pris pour cible dans le sud du Liban. Je rappelle que la FINUL, c'est cette force de maintien de la paix des Nations Unies. Quel avenir pour cette force? Le Premier ministre libanais, depuis l'Élysée, Nawaf Salam, a affirmé qu'il n'y aurait pas de FINUL 3. En clair, comment peut évoluer cette force et comment devrait-elle évoluer?
Bah écoutez, la première chose, c'est que son mandat s'arrête à la fin de l'année 2026. Et donc, quelque part, c'est ce que souhaitaient les Israéliens. Ils ne voulaient pas de cette FINUL parce que la FINUL, elle empêche de faire les choses et puis surtout elle regarde, elle observe, elle documente, elle informe. Et ça, évidemment, les Israéliens n'en veulent pas. Il faut rappeler qu'au moment pour Gaza, la presse internationale a été interdite depuis le début. Elle est toujours interdite d'accès sur le territoire. Donc c'est la même politique israélienne consistant à ce que on ne puisse pas avoir de témoin. Et la FINUL, évidemment, était un témoin. Donc elle va partir à partir de décembre. Enfin, son mandat s'arrête en décembre 2026, et donc pendant les mois de 2027, elle devrait plier bagage, quoi. Et donc en ce moment au Conseil de sécurité, il y a une discussion pour savoir comment la remplacer, par quel moyen, et ça paraît très difficile parce que justement les Israéliens n'en veulent pas, ils préféraient qu'il n'y ait personne, qu'il n'y ait rien. Pour les Libanais, je ne sais pas ce qu'ils souhaitent, mais il est important quand même qu'il y ait une force internationale. Donc le débat va sans doute se nourrir ces prochains mois. Il y a un rapport en préparation au Conseil de sécurité pour le mois de juin, et donc on en saura un peu plus dans quelques temps.
Et c'est le souhait affiché d'ailleurs par le président de la République Emmanuel Macron lorsqu'il a reçu à l'Élysée Nawaf Salam. Emmanuel Macron qui a dit vouloir remettre à l'ordre du jour la conférence internationale pour aider l'armée libanaise, cela quand le Liban le souhaitera. Les conditions ne sont bien entendu aujourd'hui pas encore réunies, mais cette conférence pour aider l'armée, est-ce qu'elle sera essentielle?
La question de l'armée, en fait, c'est la question de l'État libanais. L'État libanais doit pouvoir disposer du monopole de la violence physique légitime, comme on dit, et donc qui dispose de la violence physique légitime dans les appareils d'État, c'est l'armée d'abord, c'est la police. Voilà, et donc il est essentiel, effectivement, que dans les temps qui viennent, mais c'est une vieille histoire qui remonte à plusieurs décennies maintenant, que l'État libanais dispose du monopole de la violence et par conséquent du contrôle des armes, et qu'aucune milice, quelle qu'elle soit, ne puisse en avoir. Donc ce sera un grand débat, et ça veut dire aussi, par presque mécaniquement, qu'il faut renforcer l'armée libanaise sur tous les plans, pour que ce soit vraiment une armée capable de défendre son pays, au-delà de la question du monopole des armes que j'évoquais. Mais ça ne peut pas être une confrontation entre l'armée libanaise et le Hezbollah, parce que ça risquerait de tomber dans une incontentieux global et quelque chose qui pourrait ressembler à une nouvelle guerre civile. Donc
c'est ce que vous pointez.
Bien sûr. Donc il faut qu'il y ait en fait des négociations entre l'État libanais, dans lequel se trouve aussi le Hezbollah. Il ne faut pas oublier qu'il a deux ministres et des députés. Donc il faut une négociation qui en fait conduit à repenser l'équilibre entre les communautés aussi. Enfin, il y a quelque chose de plus global, quoi. Mais voilà, donc c'est un grand chantier qui appartient aux Libanais. Je crois que c'est ça très important de le souligner. Ça appartient aux Libanais, ça appartient évidemment pas à Israël. Dans ce cadre-là, ça appartient aux Libanais et aux Libanais de choisir les États sur lesquels ils peuvent compter. Je pense qu'évidemment, ils souhaiteront que la France soit partie prenante et qu'elle trouve avec d'autres États les moyens de soutenir cette initiative qui, évidemment, qu'on doit passer aussi par le renforcement à tous égards de l'armée libanaise, pour que l'armée libanaise soit équipée, que ses soldats soient payés, et puis surtout qu'elle devienne vraiment une structure sur laquelle l'État puisse s'appuyer. Et malheureusement, le chemin à parcourir pour y arriver me semble encore assez long. C'est un euphémisme.
Un grand merci, Jean-Paul Chagnolo.
Merci à vous.
Je rappelle que vous présidez l'IREMO, vous êtes professeur émérite des universités et directeur de la revue Confluence Méditerranée. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur la région. Un grand merci à vous.
Merci à vous, au revoir.
C'était Grand Angle.